littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Traces de l'industrie sur la nature et les humains. Blandine Comte, Pichaya Soudbantad, Nicolas Puzna. Modération Marion Cuny.
Bonjour à tous. Pendant que nos invités finissent de s'installer, je voudrais vous remercier d'être tous ici présents aussi, de façon aussi matinale. Hein, c'est un premier novembre, c'est courageux. Donc, nous allons discuter aujourd'hui des traces qu'a laissé l'industrie sur la nature et sur les hommes. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte, à la fin du XVIIIe siècle, l'invention de la machine à vapeur a généré la révolution industrielle. Le travail domestique a progressivement laissé la place à un travail organisé de façon scientifique et a fait de nous tous en fait un petit peu des spécialistes dans différents domaines particuliers et plus vraiment des généralistes. Cela a profondément modifié nos façons de produire, notre relation au travail, notre relation au temps, nos modes de vie et évidemment notre rapport à l'environnement. Si le niveau de vie moyen a beaucoup progressé, les conséquences de cette profonde transformation n'ont pas toujours été bénéfiques, il faut bien le reconnaître. Nous allons donc essayer aujourd'hui de comprendre quelles formes peuvent prendre ces traces laissées sur nous et sur notre environnement. Donc pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous avons trois intervenants. Donc tout d'abord, nous avons Blandine Comte, qui est docteure en biochimie et nutrition et directrice de recherche à l'INRAE, donc dans l'unité nutrition humaine. Ses travaux portent sur la compréhension des mécanismes par lesquels la nutrition contribue au développement ou à la prévention des maladies métaboliques, comme par exemple le diabète de type 2, dont on a malheureusement tous entendu parler. Nous avons également avec nous Pichaya Soudbantad, j'espère ne pas avoir écorché votre nom, qui est un auteur et un essayiste thaïlandais, à qui on doit de nombreux essais et nouvelles de climate fiction. Son premier roman, Bangkok Crave, Awake to Rain, a été acclamé par la critique et est désormais disponible en français sous le titre Bangkok Déluge, aux éditions Rivage. Il nous montre à voir en fait les changements de la ville de Bangkok, donc sur une longue période, à travers une dizaine de personnages, du 19e siècle vers un futur, vers des jours un peu moins cléments. Et enfin, nous avons avec nous Nicolas Puzna, qui est scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée. On lui doit donc un premier roman graphique, Espèce invasive, paru aux éditions Sarbacane, qui est un récit apocalyptique où l'humanité a perdu le sommeil. Et sa deuxième bande dessinée, donc, qui est exposée ici, qui est parue récemment et qui fait partie de la sélection officielle du prix Utopial BD 2021, Megafauna, nous propose une uchronie où l'homme de Néandertal a survécu et coexiste avec Homo sapiens à l'époque médiévale. Donc voilà pour nos invités. Pour commencer sur cette thématique, moi j'aimerais me faire l'avocat du diable. L'évolution de nos modes de vie, dont l'industrialisation fait partie, n'a pas eu que des désavantages. Je dirais même plus, ça a quand même permis certaines avancées majeures. Elle permet entre autres de couvrir tous nos besoins de base. L'alimentation, se nourrir, se loger, se chauffer. Alors même s'il faut se garder d'être un peu trop ethnocentriste, la famine, certes, n'a pas disparu. Par contre, elle a quand même très très fortement reculé. Donc j'aimerais commencer par cette question à Blandine Comte. Est-ce que la rationalisation, la mécanisation et l'automatisation de notre production alimentaire est problématique? Est-ce qu'elle a toujours été? Et en quoi est-ce qu'elle est problématique si elle l'est ?
Bonjour à tous. Alors moi, je dirais que non, pas vraiment. Et comme vous l'avez dit, il y a eu des moments où vraiment il y a eu des famines majeures dans un grand nombre de pays dans le monde. En Europe, suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a vu clairement, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu vraiment qu'il y avait un gros, gros problème d'alimentation, d'abord à l'alimentation. Et l'INRA a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir faire de telle sorte qu'on augmente et qu'on améliore les moyens de production pour pouvoir faire telle sorte que l'on nourrisse de façon adéquate la population. Et je ferai juste une petite parenthèse. Il a été montré que pendant la grande famine qu'a été subie aux Pays-Bas, les femmes qui étaient enceintes et qui avaient un apport alimentaire extrêmement faible par rapport à ce qu'elles devraient avoir eu, ont eu des enfants qui étaient beaucoup plus petits à la naissance. Et on s'est aperçu qu'à l'âge de 30-40 ans, Mais ces gens-là avaient des problèmes de santé. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, mais c'est assez étrange, il y a ces gens qui sont hyper tendus, qui ont des maladies de façon un peu homogène aux Pays-Bas pendant cette grande famine. Est-ce qu'il y a un lien entre l'alimentation pendant la période fœtale et ces gens-là qui sont nés à l'issue de cette grosse famine? Et en fait, maintenant, on s'aperçoit que si l'alimentation pendant la période fœtale n'est pas assez importante, il y a cette programmation métabolique qui fait qu'à l'âge de 30-40 ans, ces gens-là développent de l'hypertension, du diabète et ont des conséquences majeures sur la santé. Donc oui, je pense que l'industrialisation a apporté des choses tout à fait bénéfiques. Après, une fois de plus, c'est comme dans beaucoup de choses. Quand il y a des choses positives, il y a des choses négatives qui viennent. Et on voit que l'industrie agroalimentaire maintenant nous a apporté un certain nombre de, avec les contraintes de notre société, nous a apporté une alimentation qui n'est plus aussi saine que ce qu'on aurait pu espérer il y a 20 ou 30 ans. Voilà, donc ça n'est pas tout blanc et ça n'est pas tout noir. C'est clair que l'industrialisation a quand même apporté des bonnes choses sur nos niveaux de vie et notre santé.
On arrive quand même à un état un peu paradoxal où, y compris dans des sociétés, on va dire, développées, enfin très développées, voire riches, je pense aux États-Unis par exemple, certaines personnes sont à la fois, on va dire, surnourries et en malnutrition. Enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Alors, une fois de plus, je pense que c'est qu'on a, délégué, en fait, une grande partie de notre rapport alimentaire. On s'est dit, ben, il y a des gens qui vont s'en occuper, et puis on leur délègue entièrement, et on va dire, ben, l'industrie alimentaire, agroalimentaire, va nous nourrir. Et puis, ben, on va leur faire confiance et ils vont nous dire ben, tout ce qu'il faut manger et puis on va être compliant et manger tout ce qu'ils nous donnent. Ce qui est clair, c'est que l'industrie alimentaire a des ambitions vertueuses, mais elles ont des ambitions, l'industrie agroalimentaire a des ambitions aussi, enfin, des ambitions mercantiles. Et je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que, bon, ok, on sait que les gens aiment le sucre, alors on va leur donner du sucre parce qu'ils vont acheter plus de choses quand c'est sucré. Et puis, ben, finalement, il y a des choses, ben, on aime le gras parce que c'est vrai que le gras aussi apporte des tas de choses dans notre alimentation. Et ben, on va avec les envies des gens pour faire telle sorte qu'ils s'en consomment plus, mais pas obligatoirement avec les nécessités de notre santé. Après, les connaissances augmentent et je suis pas sûre non plus que toute l'industrie agroalimentaire était complètement machiavélique et pensait réellement qu'elle allait empoisonner notre société maintenant. Après, une fois de plus, quand on parle des Américains, oui, ils sont en suralimentation, oui, il y a beaucoup d'alimentation qu'on appelle la junk food, mais on peut considérer quand même qu'il y a certains endroits où on dit que c'est des déserts alimentaires parce que dans certains quartiers, dans certaines grandes villes américaines, vous n'avez pas de supermarché où vous pouvez acheter des fruits, des légumes, de la nourriture saine. Vous n'avez que des McDonald's, de la junk food disponible. Donc oui, c'est de la suralimentation, mais c'est un désert alimentaire. Donc c'est cette ambiguïté, cette grosse problématique de savoir, oui, on a accès à l'alimentation, mais on a accès à l'alimentation qui n'est pas bonne pour la santé.
Et la question que vous dites justement sur la notion de désert alimentaire, c'est aussi intéressant parce que ça pose aussi une autre question qui a été induite par l'industrialisation, c'est la rationalisation des espaces. C'est-à-dire que non seulement on va dire l'industrialisation a impacté notre alimentation, mais ça a également impacté nos lieux de culture, nos lieux de vie, nos habitats. Et là justement, je me tourne un peu vers les deux romanciers et scénaristes de la table ronde. Comment justement cette rationalisation-là a impacté nos villes et nos cultures? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment?
Alors, bonjour à tous. En fait, la question, elle porte sur l'actualité, sur notre monde actuel. Et moi, je me suis intéressé, fait un petit retour dans le passé de quelques siècles et j'ai situé l'humanité au Moyen-Âge. Donc, à un moment où l'industrialisation telle qu'on l'entend, c'est-à-dire mécanisée avec l'aide des énergies fossiles, n'avait pas encore eu lieu, mais avait déjà eu lieu depuis fort longtemps une autre industrie, l'industrie humaine, depuis le néolithique, qui s'était mise en place et qui a permis de donner davantage de nourriture et de permettre aux humains de croître et multiplier. Et ça a eu un effet exponentiel, bien sûr, au XIXe siècle, lorsque le pétrole, le charbon aidant, on a pu produire davantage. C'est ce que vous disiez, Blandine. Et donc, évidemment, l'impact majeur, pour moi, c'est d'abord la démographie galopante et sans limite de l'être humain. Dans mon histoire, j'ai imaginé que ça s'était passé un peu différemment. Parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs espèces à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs espèces qui ont coexisté, qui ont vécu ensemble, parfois pendant plusieurs milliers d'années. Et notamment Néandertal et Homo sapiens en Europe. Et j'ai toujours trouvé cette période extrêmement fascinante. Je me demandais comment ils avaient vécu cette cohabitation, est-ce qu'ils en avaient conscience. Et une façon de la mettre en scène, sans remonter au temps préhistorique, c'est de la transposer dans une uchronie moyenâgeuse. Alors comment ça se passe dans ce monde que j'ai essayé de mettre en place? J'ai imaginé un Néandertal qui a évolué pendant 42 000 ans, mais d'une façon distincte, qui n'a pas eu le même rapport avec son environnement, qui n'a pas eu le même rapport avec les animaux, surtout la faune, qui a peut-être été un meilleur jardinier ou un meilleur gardien de sa mégafaune, notamment, qui, dans cette fiction, n'aurait pas totalement disparu. Les grands animaux que nous connaissons, qui ont disparu en fait autour du néolithique, avec l'arrivée en partie d'Homo sapiens dans cette histoire, sont toujours là. Je me suis peut-être un petit peu égaré par rapport à la question de départ.
En fait, oui et non, c'est-à-dire que la question était en deux parties, comment est-ce que nos habitats ont changé et comment on aurait pu faire autrement. Alors, vous avez traité la deuxième partie de la question, mais c'est très bien. Du coup, je me tourne plutôt vers vous, parce que pour le coup, vous nous montrez justement une ville qui évolue, et sur une longue période, y compris sur sur des temps futurs. Comment est-ce que, en plus, on a tous ici un point de vue relativement européen, voire nord-américain, mais vous en avez un autre qui est plutôt, orienté à tourner vers l'Est. Comment est-ce que, justement, ces villes-là de Thaïlande ont évolué et comment est-ce que vous avez projeté, justement, les évolutions des villes futures?
Yeah. I think in writing my book and wanting to tell the story of not just my characters, but also a city that really informed my decision of looking at the lifespan of a city over the course of 200 years. And I think that one of the things that Bangkok has seen is, and as many other cities have seen, is almost a kind of a colonial prioritization of the elsewhere above the local. So that means that instead of resources being made and produced so that people around the city can consume, now it's an extension of wider global capitalism. And what happens is you see a transformation of space and time and also food as well. For example, Bangkok used to be a very aquatic city with rivers and canals, and that was the way that people lived in basically Bangkok means swamp of olives. So this was low-lying wetland that was never meant to be paved over, but in order to adapt to the engines of economic growth, things were paved over, tall buildings have come, and now the city floods every year. And that also affects then, because there's so much emphasis on growth, the idea that time is valuable, speed is important. So you then adapt to the global economy that is addicted to fossil fuel growth, building roads and transportation networks that are meant for cars. And what you have is instead of speed, you have traffic jams. And with traffic jams come pollution. And with pollution, in a survey of 14 cities, I think by a UN agency, it's projected that leads to 50,000 additional premature deaths each year. And when it comes to food, you also see the effect in which the city, like the neighborhood where my parents live, I used to see rice fields, and then that is now replaced by buildings. And then the areas that are growing food, is it growing food to feed people of Bangkok or Thailand? Maybe some, but a lot of it is also meant for industrial export. So you also see food prices being affected because the market value of food is more valuable overseas. I mean, I am a lover of durian, and this is something that I grew up eating and almost neglected. I'm like, ugh, durian, like that. I've had so much of it. And now to get two morsels is like $30 to get a decent quality morsel of durian. So that participation in this global economic engine of capitalism has made such changes to the city. And it is something that I reflected in my novel to see how people kind of lived with life and nature and things that are immediate, but now things are being pulled with forces beyond their control.
J'ai eu un réflexe. Et surtout, ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça met aussi en évidence justement les problèmes, par exemple, des monocultures, du fait que pour des raisons de productivité et de rentabilité, on a forcé certaines populations à ne produire que certains aliments ou que certaines ressources, ce qui pose souci, d'une part, comme vous le dites, pour les raisons d'accès locales, mais aussi, ça met en, on va dire, c'est des systèmes très fragiles, parce que, encore une fois, je ne suis pas spécialiste en agriculture, mais il suffit qu'il y ait un petit problème sur ce type de plantes pour en fait mettre toute une population dans la misère et voire dans la famine pour le coup. Mais du coup, ça pose la question de savoir justement sur les conséquences sociales et sociétales de cette rationalisation, et surtout de savoir si on est tous égaux face à aux conséquences de cette rationalisation.
Alors moi, je dirais, c'est sûr qu'on n'est absolument pas tous égaux. Socialement, on n'est absolument pas tous égaux, c'est évident. Mais biologiquement parlant, non plus. Et ce qui est assez étrange d'un certain côté, c'est que finalement, cette rationalisation, elle a fait de telle sorte que pour certaines personnes, on a eu des régimes alimentaires qui sont devenus extrêmement variés. Et puis tout d'un coup, avec les possibilités de transport de toutes ces alimentations, finalement, on s'est mis à manger, nous, Européens, des tonnes de choses asiatiques qu'on ne mangeait absolument pas. Alors si on fait le rapport avec des âges plus anciens, mais même la population européenne ne connaissait pas vraiment la nourriture asiatique il y a 50, 60 ans. Mais d'un autre côté, les personnes pauvres sont limitées dans leur alimentation à manger toujours la même chose. Et c'est cette ambiguïté de l'abondance et d'un certain côté de la richesse, mais aussi de la pauvreté.
Et du coup, est-ce que, on va dire, les Européens et les Américains, et de façon générale les Occidentaux, ont sacrifié le reste du monde pour leur petit...
Alors, moi, c'est peut-être un point de vue personnel, mais je dirais assez oui, par leur puissance économique, par leur puissance de frappe. Après, je pense que maintenant, l'Asie est en train de se réveiller et de se dire, OK, on va essayer de faire de telle sorte qu'on change un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
I think to a certain part, maybe there's some difference, but because of the way the global economy works, systems have to be aligned with each other. And so you have a global system and you have a domestic system, and those things are all varied. It's funny that you say that Americans are at the top of the heap. As someone who also lives in Brooklyn, I find that to be the opposite, in the sense that you do have this division of rich and poor that is so exacerbated. And America, this society that basically grew out of racism and slavery, still looks inhumanely at people who are poor and do not have. So there's a built-in austerity. You see lots of arguments in Congress about raising billionaire tax by just a little bit so everyone can have access to health care, good food, reliable transportation, and energy, and you see resistance in the greatest degree, so that people who are poor are living in worse neighborhoods, have less access to, or zero access to health care, live in food deserts, and have generally a harder path to education, and education, American tuition, right? Like $40,000-$50,000 a year for school sometimes. So that becomes a systemic imbalance, and that imbalance then circulates into the larger system, which profits from having an underclass to serve the poor people. So the system is built for this inequality still. And industrialization, instead of helping to make things level, basically then feeds the wealth of the industrialists and thus maintain the social order.
C'est intéressant parce que justement un des aspects, moi, une des questions qui me venait à l'esprit aussi, c'était quels étaient l'impact justement des, enfin, comment est-ce que les intérêts économiques impactaient justement les choix politiques. Et en fait, justement, j'avais en tête, par exemple, le support économique qui était apporté, par exemple, aux producteurs de maïs aux États-Unis, qui justement explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de sirop de glucose, alors c'est high fructose syrup. En anglais, je crois, et aussi, par exemple, qui conditionne énormément les politiques et les stratégies de communication, notamment vis-à-vis de la nourriture et de l'obésité. C'est-à-dire qu'en France, on a le manger-bouger. Vous savez, quand Coca-Cola nous vend un truc, n'oublie pas de manger-bouger. Aux États-Unis, ils ont Let's Move de Michelle Obama, où en gros, le principe, c'est si vous faites suffisamment d'exercice, ce que vous mangez n'a pas d'importance. Alors, quel est votre avis de spécialiste sur cet aspect-là ?
Alors, spécialiste, je ne sais pas. Une fois de plus, vous avez tous entendu parler du PNNS, le programme Nutrition Santé en France. Et puis, cette histoire de si on bouge, on fait assez d'exercices, tout va bien aller. Néanmoins, je pense que c'est... Alors, une fois de plus, les politiques publiques, elles ont besoin de faire passer un message simple, parce que si c'est très compliqué... Ça passe pas. Néanmoins, on sait que les aliments, même certains consommés en petite quantité, peuvent avoir des effets délétères sur notre santé de façon majeure. Et donc, ça n'est pas simplement le problème de l'obésité, c'est pas simplement la quantité. Alors, pendant très longtemps, on l'a pensé, c'est un équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Et juste si on fait bouger cette balance, on va tout régler les problèmes. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a certains aliments, même s'ils sont pris en quantité relativement mineure, ont des effets majeurs sur notre santé. Donc, oui, il faut faire pour la politique de la santé et pour les politiques publiques des messages simples, mais il faut aussi utiliser un petit peu de notre esprit critique pour penser que ça n'est pas simplement aussi simple et qu'il faut prendre un petit peu de recul et essayer de prendre en charge notre santé nous-mêmes pour pouvoir dire est-ce que vraiment j'ai le droit de manger. Alors, une fois de plus, c'est pas parce que vous allez manger un hamburger, un Coke, un grand Coca-Cola une fois de temps en temps que vous allez devenir obèse. On peut se donner le droit de faire des écarts entre guillemets à notre équilibre de vie. Après, c'est le problème de la répétition et de ce côté très répétitif en fait de notre vie, parce qu'il faut qu'on mange en gros 2 à 3 fois par jour, et donc du coup, il faut qu'on ingère environ plus d'un kilo de nourriture chaque jour. Voilà.
On est des gros mammifères, c'est sûr, et des mammifères qui ont besoin de s'alimenter constamment. Mais en fait, on est resté sur un état de notre corps tel qu'il était il y a des dizaines de milliers d'années, et avec une alimentation qui a profondément changé et qui s'est enrichi. Et je crois qu'au fond, et je reviens toujours à mes temps anciens, il y a quelque chose qui s'est cassé, en ce sens que au moment, par exemple, où je parlais tout à l'heure de ces populations humaines éparses qui vivaient en Europe, au moment où ils étaient quelques milliers d'individus, il y avait sans doute un sentiment de nécessité de survie et une appétence pour la nourriture qui allait bien au-delà du simple goût, quoi. Il fallait absolument survivre, et sans doute d'ailleurs que Sapiens ou d'autres ont senti passer la fin d'une extinction, tout simplement parce qu'ils étaient très peu nombreux. Et on est sans doute restés, nous autres humains contemporains, avec ce sentiment de survie, de nécessité d'ingérer. Pourquoi est-ce que je me suis empiffré hier soir, par exemple, à titre personnel, sans aucune raison, alors que j'en ai pas besoin? Mais peut-être parce que il y a quelque chose dans mon corps et mon esprit qui me dit qu'il faut ingérer des quantités de nourriture absolument absurdes et dont j'ai à l'évidence pas besoin. Je suppose qu'on pourrait très bien vivre avec une quantité, un apport alimentaire bien moindre. Mais tout cela va de pair avec ce dont on parlait au début, c'est-à-dire l'industrialisation, la mise en œuvre de moyens de production qui nous permettent aussi de dépasser le moment de la survie pour manger plus qu'il ne faut. Et alors, c'est vrai que ce changement de mode de production a aussi engagé une esclavitude d'une grande partie de l'humanité à partir justement du néolithique. Il a bien fallu faire travailler les gens et tout le monde n'a pas, enfin, tout le monde sans doute s'est efforcé d'en faire un peu moins que les voisins. Et actuellement, c'est ce qu'on disait à certains moments de cette discussion. Une grande partie de l'humanité est mise au pas pour produire ce que l'autre va consommer en excès.
Alors moi, je ferais juste un tout petit commentaire, c'est que biologiquement parlant, alors je ne suis pas une généticienne du tout, hein, mais biologiquement parlant, dans nos gènes, à la naissance, on a des gènes qui s'activent et qui disent « il faut prendre de la nourriture, il faut qu'on stocke au cas où, dans le moment où on n'aura plus d'alimentation », on est un minimum de réserve. Donc, génétiquement parlant, on a un processus qui s'active en se disant il faut faire des réserves quand on a de l'alimentation, quand on a des calories qu'on peut sauvegarder, on va les sauvegarder au minimum au cas où on en ait besoin plus tard. Donc, biologiquement parlant, oui, il y a inscrit dans nos gènes quelque chose de la survie au niveau énergétique pour faire telle sorte qu'on puisse arriver à passer potentiellement à travers une crise où on n'a plus de quoi s'alimenter correctement. Après, voilà, c'est les premiers instants de la vie, et puis on vous dit que la quantité de tissu adipeux qu'on stocke, c'est des processus, on stocke une quantité de cellules graisseuses dans les premières parties de la vie, et ces cellules graisseuses, il y en a un certain nombre qu'on construit quand on est petit. Et puis après, ces cellules graisseuses, elles grossissent ou elles rapetissent dépendamment d'eux. On en a un nombre entre guillemets fini et elles grossissent, rapetissent dépendamment de comment est-ce qu'on mange et comment est-ce qu'on fait de l'exercice, etc. Donc il y a cette partie aussi qui est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on maîtrise très très mal.
Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez tous les deux, alors pareil, je ne suis pas une spécialiste du tout, je ne suis pas biologiste, je suis mécanicienne, donc... Je peux me tromper, mais il me semble justement qu'il y avait une des explications au taux très très important d'obésité, notamment qu'il y a dans les îles Samoa, Hawaï et ce genre d'îles, du fait en fait que c'est des populations qui ont été entre guillemets qui ont vécu des voyages en mer assez importants. Et donc en fait il y a une espèce de sélection justement l'évolution, mais en fait une sélection de ceux qui avaient la capacité justement de stocker le plus entre guillemets d'énergie et d'en dépenser le moins. Et donc en fait paradoxalement, ces populations sont plus obèses parce qu'ils sont plus efficaces, ils sont plus efficients. C'est-à-dire que pour la même activité, ils vont dépenser moins d'énergie et en stocker plus. Est-ce que je suis complètement à l'ouest ou
Alors écoutez, moi je ne suis pas généticienne de l'obésité. Alors je sais que dans l'obésité, il y a de la génétique. Mais je ne pourrais pas vous dire parce que c'est un domaine que je ne connais pas.
Ça marche.
Mais ce qui a été montré quand même, c'est que les Asiatiques qui sont... protégés de façon générale par de l'obésité, il a été montré que les populations qui ont émigré de l'Asie vers l'Amérique du Nord, maintenant, ont des taux d'obésité qui sont tout à fait identiques à la population américaine moyenne. Donc, il y a un processus d'adaptation.
La génétique ne fait pas tout, l'environnement fait énormément.
La génétique ne fait pas tout et on n'oublie pas que la génétique peut aussi être modifiée de façon, on est avec nos gènes, ils sont exprimés, mais ils peuvent être modifiés par l'épigénétique qui fait qu'il y a des petites choses qui se passent après notre naissance.
Et pour revenir aussi sur ce que tu disais, ce que vous disiez, il y a un autre changement majeur quand même qui a apporté l'industrialisation, c'est aussi notre rapport au temps à nous et à l'activité. Clairement, la notion de productivité, elle s'est aussi imposée à nous. Moi, personnellement, je l'ai profondément ressenti en début d'année quand il y a eu les couvre-feux et où littéralement en France, c'était...
lève-toi, va bosser et rentre chez toi et ne fais rien d'autre. Donc clairement, la sensation d'être un outil m'est clairement apparue de façon assez flagrante. Et du coup, cette façon justement de nous transformer en machine, de rationaliser y compris notre temps, qu'est-ce que ça, enfin ça a quand même des conséquences sur le stress, sur le manque de sommeil. Et quel impact ça a sur notre qualité de vie en général?
Alors biologiquement parlant, ça a été montré que le stress a des effets. Et puis c'est un domaine de recherche qui est relativement important, et ça a été montré que le stress est suffisant dans une certaine mesure pour contribuer au surpoids. Alors après, une fois de plus, les biologistes, quand ils travaillent, et puis on ne peut pas les blâmer complètement, pendant très longtemps, les gens, ils ont pris les choses de façon séquentielle. Parce que avoir une approche vraiment agrégée, intégrative, c'était compliqué. Alors il y avait les sociologues, les épidémiologistes qui regardaient ça au niveau populationnel en disant, regardez, on s'aperçoit qu'on fait des associations entre les gens qui sont comme ça et puis leur santé. Alors maintenant, on s'aperçoit que nous, on n'est pas que biologie. Oui, on a la façon dont on est défini. Si on va chez le médecin, il va vous prendre une prise de sang, puis il va essayer d'analyser nos urines pour savoir qu'est-ce qu'on est. Mais on est bien au-delà. On est notre santé, elle est associée au fait que hier, vous avez eu un repas très sympathique avec des gens très sympathiques et vous avez été stimulé à faire de telle sorte que finalement, on a mangé un peu plus, on a bu un peu plus parce que cette convivialité fait que. Et on est une composition de tout ça, de ces facteurs intrinsèques, extrinsèques. Et pour pouvoir arriver à les mettre tous ensemble, il faut avoir des approches mathématiques, intégratives, une vision intégrative et faire de telle sorte que la science soit décloisonnée, que les épidémiologistes, les sociologues, les généticiens, les biologistes travaillent ensemble. Et on en est au début de cette ère. On commence à comprendre certaines choses, mais après, le stress, c'est comment est-ce qu'on l'évalue? Le bonheur, comment est-ce qu'on l'évalue? Alors, on l'évalue avec des catégories et des chiffres, mais finalement, est-ce que c'est la bonne mesure? Et est-ce que c'est... Alors, il faut commencer avant de pouvoir faire de voir les choses de façon plus complexe. Mais oui, c'est clair que l'environnement a des effets, mais simplement l'alternance mi-jour, le fait qu'on se couche tôt, qu'on se couche plus tard, qu'on ait des rythmes de sommeil plus ou moins, a des effets sur notre santé de façon très claire. Et je pense que ça, c'est quand on regarde les populations qui ont vécu bien avant, qui ne vivaient avec la nature, qui ne vivaient pas avec l'industrialisation, probablement avaient un niveau de santé probablement très, très, très différent du fait de tous ces facteurs-là. Mais le stress était peut-être là, différemment, mais probablement là aussi. Non ?
Je ne suis pas préhistorien, mais j'imagine qu'ils avaient certain stress différent, c'est sûr. Quelle était votre question au départ?
Alors, la question, c'était l'impact du stress sur notre qualité de vie, mais je pense même qu'on peut, on peut aussi, transitionner vers le fait que quel est l'impact justement de ce changement-là de philosophie et de mentalité, le fait qu'on se soit transformé en machine, parce que, comme dit, là, ce que vous montrez aussi, c'est que même pour la partie biologique, on n'est pas des machines, c'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas prendre chaque bout indépendamment, la nutrition, le sommeil, le machin, indépendamment, et espérer traiter le problème, mais en fait, justement, le fait justement d'avoir transitionné vers cette espèce de mentalité de « il faut produire toujours plus, je suis un outil », l'espèce de hustle culture à l'américaine, qu'est-ce que ça a eu aussi sur notre mentalité, sur notre façon de vivre? Et comme en plus vous avez tous les deux traité justement ces sociétés-là qui ont évolué dans le temps, qu'est-ce que ça implique comme changement de mentalité et comme changement de philosophie de vie?
I think one way that I have seen it in a place like Bangkok, for example, is Bangkok used to have coffee that you just pour into the glass and you have to like mix in hot water, and that was like the best coffee you can have in Bangkok. And now there's like a booming coffee culture in Bangkok, and why is this? Why is this growing city now such connoisseurs of this beverage, coffee? Stimulants tie into better productivity. So every office has free coffee. All you want, consume coffee, be more productive and be more productive. And what you have when culture, right? Culture is important. You have this coffee culture, you have this office overworking culture that then feeds into itself. And then this emphasis of productivity is because now everything has to be measured. Productivity, this mindset, then converts our lives into quantifiable data. And you know, when we talk about sleep, what's sleep? Hours? Is it dreams? Dreams don't matter in this society. What matters is not dreams, but data. So you have more emphasis on data, and there is some good in data. It provides valuable feedback on what's happening, but also because of the way society is structured, data also has sinister aspects. Measuring how you spend your time, measuring where you are, measuring all these things so that there is still, so that you can be aligned properly to the course of productivity, so that's how you get the burnout that you were talking about before, and especially in a place like Thailand, where there is this feel that the country has to catch up to all the other industrialized nations. It's great that you're overworked. That shows resolute like strength. Certainly in America, that's also the way people work too. We look at the French vacation holidays, and it's just like, wow, you get a month of vacation, you get maternity and paternity leave. People, and yet at the same time, people in America think we're the best country in the world, and that's because they don't travel. So I live in two societies that one is this like almost achieved dystopia of capitalism, and the other is trying to aspire to the same way of thinking and way of life because it's something that wasn't there before.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pichaya. Le stress dont on parlait à l'instant, je pense qu'il s'opère sur une partie de l'humanité et pas sur toutes. Et à chaque fois que je reviens en Europe et particulièrement en France, après avoir vécu plusieurs années en Amérique latine, par exemple, je suis frappé de la facilité de la vie que je ressens autour de moi et qui semble avoir été oubliée de mes compatriotes parfois. Et j'écoutais l'autre jour Françoise Héritier dans une de ses dernières apparitions avant qu'elle décède. Et c'est une anthropologue et qui disait son témoignage d'elle aussi après avoir vécu parmi les diverses peuplades à travers le monde, son impression d'immense confort dans lequel nous baignons sans nous en rendre compte. Et malgré ça, malgré ce confort, d'exprimer beaucoup de plaintes. Donc le stress dont on parlait, à mon avis, il est plutôt opéré sur notre environnement ou sur une partie de l'humanité que nous faisons travailler rudement pour nos commodités. Alors voilà, c'est plutôt ça que j'imagine, un être humain qui, en partie, s'est emparé du monde et le pressure pour en obtenir tout le jus et tout ce qui reste. Et en même temps, ça arrange pour faire travailler une autre partie de l'humanité pour son bon plaisir, enfin pour vivre le plus confortablement possible. Alors, c'était pas l'origine de ta question sur le stress, mais à mon avis, l'espèce humaine opère un stress immense, a réduit, comme on le sait, la quantité de biomasse en fait en dehors de l'espèce humaine, des animaux qu'élève et consomme l'espèce humaine, et puis les animaux dont elle se sert comme amusement, comme mascotas, comme on dit en Amérique latine, c'est-à-dire les animaux de compagnie. En dehors de ça, on a le sentiment d'un amenuisement de l'ensemble de l'écosystème pour le profit d'une espèce extrêmement efficace, en fait, et qui on peut se féliciter d'un immense succès de notre espèce.
Mais du coup, ce que tu dis aussi montre avec quand même la marque d'une grosse déconnexion. C'est-à-dire que là, on parlait justement des données qu'on acquiert, etc. Mais il y a aussi une chose qui me choque, c'est le glissement sémantique. C'est-à-dire que je pratique un peu le sport et donc moi, je m'intéresse un peu. Et il y a pas mal de gens pour parler justement de nutrition. Ils parlent de « to fuel your body ». Littéralement, en fait, c'est plus de l'alimentation, c'est plus le fait de se nourrir. C'est le fait de se, entre guillemets, de se mettre de l'énergie, en gros, le bon carburant. Et justement, ça montre quand même entre ça, et ça montre quand même une certaine déconnexion entre notre humanité, l'environnement qui nous entoure, et de façon générale, alors j'aime pas trop dire ça, mais la nature avec un N majuscule. Comment ça s'exprime et est-ce qu'on peut en... en revenir.
I do think that this disconnection is the focus of I think we have shifted from an emphasis of our reality to something immaterial. And before, that used to be something spiritual or even religious. And I remember, you know, like growing up in Bangkok, we believe in land spirits and entities that live amongst us. And every year, my family would go to our shrine that's like a house for the spirits, and we would make offerings using food and things that we offer to them. But now the shift has become that we are taking the real world that we have and sacrificing it, making offerings to this entity of that is now maybe our spirit now, the entity of capital. So this immaterial thing that we've created, this immaterial abstraction, is now the way that we connect with each other. So that then, because of that, I feel there's more emphasis on the unreal, so that instead of the thing that's valued, it's the image of the thing that's valued. It's the projection. So we worship a kind of like simulacrum. We put priorities on things that are shells, and because they, in some ways, maybe they serve to make things better than they are. We can put our lives online, and we can make it appear the way we would idealize. We can make things, we can imagine, instead of like this polluted world that we live in, a world in which our fossil fuel industry has worked on meticulous green power, even though that represents 2% of what they actually do. So this productivity-oriented world has lived on fantasy. And this is the shift that I think we're seeing now. We're making connections. This is the first time I've been in a conference with real people in a long time, so I really feel this. But now our emphasis on connection is online through social media, and people put emphasis on that versus talking to each other in person. So I think that has been a shift that I personally have seen and observed.
Tu veux dire que tu as le sentiment que le monde s'est virtualisé. Si j'ai cru comprendre ce que tu voulais dire.
Yeah, there is some sense of that, a sense of abstraction. Mm-hmm. It's something that I also explored in my book too, where in the future, maybe the future has become so dire that we would prefer that even.
Mm-hmm. D'accord. Oui, on est rentré dans un monde qui s'est davantage tourné vers la symbolique, mais ça a toujours été le cas finalement. Si on songe à nos origines, nous sommes une espèce qui s'est tout de suite inscrit dans un monde imaginaire, et la déconnexion à laquelle on assiste actuellement, c'est quelque chose qui nous convient finalement très bien, puisqu'on est façonné de symboles, de croyances, et notre apparence physique, l'évolution de notre corps, notre alimentation, est quelque chose de totalement imaginaire qui n'a rien à voir avec la réalité telle qu'elle pourrait l'être physiquement. En fait, l'être humain s'est transformé culturellement, et y compris dans son corps, tout comme il a transformer son environnement par sa culture. Je crois que c'est une des seules espèces qui a été capable de modifier génétiquement d'autres espèces. Et c'est aussi une des seules espèces qui a su très tôt cuisiner. Et c'est peut-être ça une des clés d'ailleurs. Parfois je me demandais quelle est la définition des espèces humaines, puisque certaines ont disparu et nous sommes la seule qui demeure. Et c'est peut-être la cuisine, en fait, le fait de pouvoir modifier son alimentation pour l'ingérer d'une autre façon et économiser de l'énergie pour produire davantage de cellules neuronales qui vont nous permettre de, ce que tu disais, Pichaya, de vivre dans un monde imaginaire, virtuel, parfois déconnecté, absolument fou en fait. Hein, la plupart du temps, tout ce que nous vivons, y compris cet événement en ce moment, il y a quelque chose, si on le regarde d'un point de vue extérieur, d'assez étonnant Et je suis toujours assez émerveillé d'ailleurs de ce qui se passe dans l'humanité. D'ailleurs, je crois que mon livre est quelque part lié à ça, c'est-à-dire à l'émerveillement devant l'inventivité, l'étrangeté de l'humain, qu'il soit néandertalien ou sapiens. Et on le retrouve d'ailleurs lorsqu'on va voir ce qui a été peint ou gravé ou parfois façonné il y a jusqu'à 180 000 ans, puisqu'on a découvert il y a peu des structures aussi anciennes qui datent de Néandertal. Je pense à la grotte de Bruniquel qui a été découverte il y a peut-être une dizaine d'années. Et lorsqu'on regarde ces structures absolument fabuleuses qui est si lointaine dans le temps, on se dit oui, on a affaire là à un genre, enfin une espèce qui a été vraiment étonnante. Allez voir la grotte de Bruniquel si vous ne la connaissez pas, cette étrange structure qui se trouve sous terre dans le sud de la France, en Aveyron. Alors, elle n'est pas visitable, hein, évidemment, parce que c'est en fait un bien tellement précieux. Mais c'est, je crois, à ma connaissance, une des plus anciennes structures de laissées par l'humain, qui n'est pas l'humain sapiens, qui n'est pas nous, mais cette espèce que nous avons côtoyée pendant quelques milliers d'années, il y a 40 000 ans.
Sauf si vous avez quelque chose, mais moi il y a quelque chose que t'as dit qui m'intéresse, c'est que l'humanité, s'est déconnectée depuis longtemps, mais pourtant on observe à l'heure actuelle un espèce de retour de boomerang et ce que j'appelle le retour des nouveaux prophètes, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de gens qui voudraient nous faire croire que il faut revenir à la nature, notamment voilà. Je vais parler de ceux qui ont des conseils alimentaires, qui voudraient nous faire croire qu'il faut manger des jus parce que c'est bon pour notre santé et que des jus. Je ne vais pas citer les noms parce que je n'ai vraiment pas envie de leur faire de la pub. Donc on a quand même tout ce retour-là, cette espèce d'engouement pour le retour à la nature, le retour à la simplicité, une espèce de un régime paléo, ce genre de choses, un espèce de retour à soit un passé fantasmé. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, j'ai réfléchi à ça il y a un certain temps. Et dans les années 70-80, il y avait un certain nombre de gens qui disaient c'est génial, là, avec l'industrialisation, on va nous donner des petites pilules qui vont contenir exactement tout ce qu'il nous faut pour pouvoir arriver à vivre de façon optimale, puis on n'aura plus besoin de cuisiner, ce ne sera plus la peine de cuisiner, on sera libéré de toute cette charge, on prendra nos petites pilules et tout ira bien. Alors, ça n'est pas arrivé, l'industrie alimentaire a inventé autre chose pour nous nourrir, et puis maintenant on est en train de dire « Ah mais tout ça c'est diabolique, c'est absolument abominable, revenons à la nourriture de l'époque paléontologique et puis on va tout manger cru, il n'y a absolument aucun problème, ça va faire de telle sorte qu'on vive mieux, qu'on vive bien. » Alors moi personnellement en tant que scientifique, je pense quand même, et peut-être un peu trop rationnel, je pense quand même que Pasteur et la cuisson ont quand même fait de telle sorte qu'il y a un certain nombre de maladies qui ont permis de faire de telle sorte que les humains vivent un petit peu plus longtemps et fassent de telle sorte qu'on n'ait pas certaines intoxications qui sont quand même assez... Voilà. Donc on est en train de vivre, de pousser le curseur de l'autre côté. Moi je pense quand même que la vérité est probablement entre les deux et que ça n'est pas en se nourrissant uniquement de jus ou de la nourriture des temps anciens où on ne savait pas ce que c'était que la cuisson qui vont faire qu'on va s'alimenter mieux. Mais ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais la cuisson, c'est tellement ancien. C'est l'invention du feu. Enfin, c'est la découverte du feu, quoi. C'est 500 000 ans. Il y a 500 000 ans, on découvre la chaleur et donc on peut modifier son alimentation. Je pense que le cru et le cuit, c'est réglé depuis 500 000 ans. Non, on a choisi le cuit. C'est beaucoup plus facile à digérer. Et ça permet de garder de l'énergie pour d'autres choses. Et puis on a aussi des mandibules, vous avez vu, qui sont assez fines parce qu'on n'est plus en train de broyer des gros morceaux de plantes comme on le faisait il y a 500 000 ans peut-être.
Du coup, ce que je propose de faire, c'est de laisser un peu la parole au public pour justement poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui.
Merci pour vos interventions. Donc, l'industrie, c'est un mal et un bien nécessaire. Est-ce que l'industrie a un avenir?
Est-ce qu'elle a surtout une fin programmée? Voilà, je ne sais pas. Je pense personnellement que on n'est pas à la veille de voir disparaître l'industrie pour de multiples raisons. Ça a été mentionné parce que il y a un certain nombre de puissants qui utilise les esclaves et le travail de ce qu'ils font pour pouvoir arriver à vivre de façon extrêmement confortable. Et ces gens qui ont cette puissance-là, je pense, ne sont pas prêts aujourd'hui à laisser leur pouvoir. Est-ce que la dynamique de nos sociétés vont faire de telle sorte que ça change? Moi, personnellement, en tant que biologiste, je ne saurais pas vous dire exactement. Et je n'ai pas de vision pour faire de telle sorte que me dire... Ben, mais je ne vois pas une fin proche, en tout cas, de ces choses-là.
For me, I think that we are approaching that point in which we are hungry and in such dire need of this change. And the future of industry will probably, I don't know how it will happen, but we have to convert this sort of linear thinking, this colonial thinking of having us humans as the progression of nature in a linear way coming to serve us, or progression of other people coming in a linear way to serve us. And there's been thinking recently about the fact that because we so emphasize this linear movement, all we see is just an emphasis on growth. We want perpetual growth all the time. And that is unsustainable, as we're discovering with the climate crisis right now. And there's been talk of changing this simple-minded thinking to something that is more complex. The fact that we need to build industry like an ecosystem that is sustainable, so that things circulate, so that when we produce something, we have ways to transform it back so that it is more thorough and has more reach to benefit more people, while and not just us humans, but also other entities and the land and our nature as well.
Oui, l'industrie telle qu'on l'a connue depuis le 19e siècle, basée sur les énergies fossiles, elle a nécessairement une fin, en fait, et elle s'accompagnera progressivement, sans doute, par une décroissance du nombre d'humains sur Terre, ce qui semble logique dans un futur peut-être très lointain, mais nous ne sommes pas des devins ni des prophètes, mais on peut tous sentir que oui, comme tu disais, Pichaya, il y a sans doute un mouvement qui s'est amorcé et qui, par la force des choses, parce que le sous-sol ne contient pas à l'infini des matières fossiles qui, en plus, sont en train de modifier l'environnement et le climat, on ne peut pas continuer, évidemment, à l'infini sur ce mode-là et sur une croissance exponentielle de l'humanité.
Ouais, on a une dernière question, je pense.
Bonjour, merci à tous d'être là. Je vais revenir 2 secondes sur l'alimentation, l'évolution industrielle et du fait que, parallèlement, il y a des pans de la société qui ont été mis un petit peu à l'écart. Pour revenir à ce que vous disiez, on va boire que des jus ou on va manger paléo ou autre chose, je suis frappée de voir à quel point ça impacte un nombre de femmes, principalement, et nettement moins d'hommes. Et je me demande aussi si ce n'est pas à mettre en relation avec le fait que médicalement, ou on va dire industrie, la pharmacopée, la médecine en général, n'a pas laissé de côté, en fait, beaucoup de problèmes typiquement féminins, on va dire, en leur disant, enfin chez nous, en tout cas en Europe, c'est vous êtes une femme, vous avez mal, c'est normal, ou cette pathologie n'existe pas, c'est dans votre tête, ou plein de choses comme ça. Et donc, du coup, c'est une partie, on va dire, de l'évolution industrielle qui a laissé de côté quand même une part de la population, et donc du coup cette part-là se retourne vers des trucs mais parfois complètement ahurissants parce qu'elle ne trouve pas de réponse. Et donc du coup comment y remédier, en fait?
Alors moi je dirais que oui, c'est complexe. D'une part, vous avez raison, la biologie et alors on a toujours dit mais les femmes c'est compliqué, il y a les hormones quand elles sont jeunes, donc le développement des médicaments, si vous regardez un petit peu les études, il s'est fait, je ne donnerai pas de chiffres, hein, mais bien plus que 50% des médicaments sont faits chez les hommes. Et on se dit, tout ce qui est vrai chez les hommes, ça va pouvoir s'adapter chez les femmes. Alors on se dit, elles sont un peu moins fortes, elles sont un peu moins lourdes, alors on va baisser les dosages pour faire telle sorte qu'on s'adapte. Et puis, on ne fait pas des études parce que chez les femmes, il y a les cycles hormonaux, etc. Donc, on va dire que ça, c'est pareil. Ce n'est pas pareil. L'exemple type, c'est que pendant très longtemps, on se disait les femmes, elles ont moins de maladies cardiovasculaires parce que elles sont protégées par leurs hormones. Et en fait, finalement, on s'est aperçu que c'était pas, elles n'avaient pas moins de maladies cardiovasculaires. C'est qu'en fait, on ne regardait pas si elles étaient malades de maladies cardiovasculaires. Et quand on a commencé à les regarder, on s'aperçoit maintenant que les femmes souffrent de plus de maladies cardiovasculaires que les hommes. Alors, maintenant, on nous demande de travailler chez les hommes et chez les femmes en tant que chercheurs. C'est marqué spécifiquement, si vous regardez la recherche pour les appels d'offres européens, l'Europe, mais je pense qu'en Amérique du Nord, c'est pareil, on nous demande de faire des travaux sur les hommes et sur les femmes. Et nous, dans un projet européen, on a fait des travaux chez les hommes et chez les femmes de gens de plus de 65 ans. Et quand on a regardé ce qu'ils avaient dans leur sang en commun, on avait juste quelques molécules sur des centaines qu'on mesurait. Donc, même après la période des hormones et qu'on est à la ménopause et on se dit les hommes et les femmes sont encore plus similaires, finalement, on ne partage pas tant de choses que ça. Alors, oui, on a pris pour acquis que les hommes et les femmes, c'était pareil. On a probablement un petit peu oublié. Après, je pense que l'alimentation des femmes est un petit peu différente parce qu'il y a aussi la pression sociale très importante de faire de telle sorte qu'il faut que les femmes elles soient minces, etc., etc. Et oui, peut-être que les choses sont un petit peu différentes et que peut-être que de ce fait-là, elles sont plus ouvertes à croire des choses plus ou moins rationnelles. Mais les choses sont en train de changer et je pense que la recherche qui se fait pour savoir mieux comprendre les différences hommes-femmes, je pense, va contribuer à faire de telle sorte qu'il y ait moins de susceptibilité à ces croyances peut-être un peu plus aberrantes.
I will say that there is definitely more understanding of human biology with the sexes, but the thing is, when it comes to policy, it's still rooted in the old way of thinking. So that for me, this is something that people have been saying too: is you have to look at when you look at policy, you have to look at the budget. Mm-hmm. And the way that people spend money in government is the way they organize priority. And things that affect women and children have been decimated. In America, where there's less access to healthcare and thus less access to healthcare for women, you're for the first time in the richest country in the world, you're seeing a rise in post-pregnancy deaths. You see child mortality rates going up in the richest country in the world, and it's because the priority is not on our most are making things equal. The priority is in the defense industry.
J'espérais pouvoir finir sur la note positive de les choses vont changer, mais malheureusement non, c'est pas tout aussi simple que ça. Je vous propose de nous séparer ici. Donc déjà, je voudrais qu'on remercie nos intervenants. Évidemment, remercier aussi les gens à la technique et notamment les traducteurs.
Futur, littérature,
cybernétique,
prospective,
science-fiction,
liberté, utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.